Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front.
Et on passe maintenant au deuxième sujet qu'on voulait aborder ce soir, c'est le manifeste Champ Libre aux sciences sociales. Donc Champ Libre, en fait, c'est un manifeste d'interpellation sur la nécessité de sciences sociales fortes aujourd'hui, à la fois au sein de l'université et largement diffusées dans la société. C'est un manifeste qui a été publié là mi-juin, qui s'inscrit en fait dans un contexte d'interpellation en général des sciences sociales cette année, puisqu'il y a eu au début, à l'automne en fait, l'apparition de 3 volumes à l'EHESS qui s'appelait Faire des sciences sociales, qui espérait, donc là je cite, provoquer des discussions politiques qui n'ont pas lieu actuellement et nourrir l'imagination politique collective. Et puis au printemps, il y a eu le lancement d'une revue Socio, qui s'appelle Socio. Sous l'égide de Michel Wieworka, qui disait que pour se former elle-même et dans le monde actuel, pour transformer la crise en débat et en conflit institutionnalisable d'où sortiront les réponses nécessaires, nos sociétés ont en réalité le plus grand besoin de l'apport des sciences sociales. Et donc, Champ Libre, c'est un autre manifeste, mais qui est aussi un manifeste d'interpellation des sciences sociales, qui réaffirme que jamais les sciences sociales n'ont été si nécessaires. Jamais elles n'ont été si menacées, jamais elles n'ont produit autant de critiques des préjugés, jamais elles n'ont eu relativement si peu d'écho public. Alors c'est un manifeste qui a été publié, je le disais, le 13 juin, et il y a une soirée de lancement à la Java le 22 juin, une soirée qui s'appelait Révolte, au cours de laquelle il y a eu ce qu'on peut appeler, en fait, il y a eu différentes, enfin des petites vignettes, en fait, il y a eu différents intervenants qui prenaient la parole sur des questions spécifiques, en fait, thématiques, comme par exemple le droit au logement, le journalisme, l'université, le sexisme, les quartiers, l'hôpital, pour articuler, en fait, la nécessité de sciences sociales fortes sur les questions politiques, sociales et économiques. Alors nous, ici, aux oreilles loin du front, en fait, c'est vrai qu'on reçoit pas mal, finalement, de chercheurs en sciences sociales, et on essaye de faire ce travail d'articulation des luttes politiques avec la recherche, de faire, en fait, ce que le manifeste... avec un peu cette approche qu'a le manifeste, de dire que les sciences sociales arment la critique, puisqu'elles sont, en fait, une entreprise de déconstruction des dominations. Mais on va en reparler ce soir autour notamment de la soirée Java, et on reçoit pour en parler Marielle Debeau, qui est maîtresse de conférence à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc Marielle est aussi une des 40 signataires du manifeste, et elle a participé aussi à l'organisation de la soirée du 22 juin. Du coup, peut-être Marielle, tu peux donc j'ai présenté un peu Champ Libre, mais tu peux peut-être nous réexpliquer exactement le contexte d'élaboration du manifeste et dans quelle démarche il s'inscrit exactement.
Comme tu le disais, la création de Champ Libre et toute l'aventure Champ Libre a commencé à partir du constat de la menace et des menaces qui pèsent sur les sciences sociales, et aussi du fait que ces sciences sociales sont absolument indispensables à la société, indispensables pour être en mesure de critiquer les mécanismes de la domination, et du constat aussi que ces sciences sociales si importantes ne sont pas assez entendues et ne sont pas assez diffusées. Alors très concrètement, c'est un appel qui, à l'origine, a été lancé, un appel pour des sciences sociales critiques. Cet appel a été signé en 2 mois par 200 chercheurs, enseignants-chercheurs en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie. Et à la suite de cet appel, une assemblée générale a été organisée qui a donné naissance à l'association Champ Libre aux sciences sociales. Donc aujourd'hui, il y a un site internet qui est champlibre.org. Donc notre idée est de nous mobiliser pour défendre les sciences sociales à un moment où ces sciences sociales sont à la fois menacées et indispensables. Et on a écrit à plusieurs mains un manifeste donc, qui a été signé même par plus de 40 chercheurs, enseignants-chercheurs, donc essentiellement des sociologues et des politistes. Et ce manifeste a été publié par 2 éditeurs qui sont des éditeurs militants. Il est important aussi de le souligner. Et il s'agit des éditions du Croquant et de La Dispute. Et à l'occasion du lancement de ce manifeste, on a souhaité réunir dans une soirée, la soirée à la Java, à la fois des chercheurs en sciences sociales et des collectifs militants et des personnes qui sont engagées parfois aussi dans leur milieu professionnel sur des questions importantes et qui donc résistent. D'où le titre de la soirée qui était « Révolte !».
Alors du coup, en fait, vous faites ce constat que les sciences sociales ne se portent pas très bien aujourd'hui, à la fois au sein de l'université, et dans la société, en fait, sur le plan de leur diffusion dans la société, pourquoi est-ce que, enfin, à quoi ça fait référence exactement? On en a parlé déjà plusieurs fois ici, mais je pense que c'est bien de le rappeler.
Oui, il y a à la fois des attaques sur les sciences sociales, sur les conditions de production de sciences sociales et sur les conditions de diffusion de ces sciences sociales. Donc, déjà, on doit commencer par faire le constat qu'il y a des transformations structurelles de l'enseignement supérieur et de la recherche, des transformations qui ne vont malheureusement pas dans le bon sens. On en reparlera certainement un peu plus tard dans l'émission, mais il y a un vrai processus de précarisation du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, un processus de précarisation des moyens scientifiques. Et pour dire les choses de façon plus concrète, on a depuis plusieurs années une baisse des financements récurrents des laboratoires de recherche et parallèlement un développement de la recherche sur projet. Mais ce développement de la recherche sur projet ne compense pas la baisse des financements récurrents. Et surtout, les financements récurrents et la recherche sur projet ne sont pas équivalents. Quand je parle de recherche sur projet, je fait référence notamment à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et il faut savoir que les SHS, donc les sciences humaines et sociales, ne représentent que 4,6% du budget de l'agence, donc pas grand-chose. Or, quand on fait des sciences sociales, on a besoin aussi de moyens, on a besoin de livres, mais on a aussi besoin de logiciels et on a besoin de faire des enquêtes de terrain. Faire des enquêtes de terrain suppose d'avoir du temps, suppose d'avoir de l'argent parfois pour payer un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde. Mais même quand on fait une recherche en sciences sociales à l'autre bout de sa rue, on a aussi besoin de dégager du temps. Et c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche français, est de plus en plus difficile.
Alors, ouais, peut-être du coup... Ou je sais pas, t'avais quelque chose à ajouter, non,
Oui, enfin, sur le sujet, j'ai évidemment beaucoup de choses à ajouter. Peut-être aussi rappeler qu'on est dans un moment où les politiques ont une préférence pour des sciences qui vont être économiquement rentables ou pour des sciences qui vont avoir des applications industrielles. Or, les sciences sociales sont extrêmement importantes pour nos sociétés, mais elles ne sont pas rentables d'un point de vue économique et elles n'ont aucune application industrielle, ou en tout cas, si l'on fait de la recherche fondamentale, on ne cherche pas à avoir une application dans un domaine industriel, par exemple. Et pour cette raison, les sciences sociales vont devenir, et on le regrette, la variable d'ajustement dans un système d'enseignement supérieur et de recherche qui paye le prix fort des politiques d'austérité. Donc, ce que l'on défend aussi, ce sont des sciences sociales, mais des sciences sociales qui sont valables pour elles-mêmes et des sciences sociales qui ne doivent pas être jugées à l'aune de leur rentabilité économique ou de leur application industrielle.
Mais il y a aussi la question de la rentabilité économique, mais il y a aussi la question de la légitimité politique que peuvent venir donner parfois les sciences sociales à certaines orientations aussi, non ?
Oui, et les sciences sociales que l'on défend sont évidemment des sciences sociales critiques qui vont mettre en évidence les ressorts de la domination, qui sont des sciences sociales qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que les différents gouvernements qui se sont succédés souhaitent.
Alors justement, ouais, oui. Est-ce qu'on peut essayer de réarticuler justement en quoi les sciences sociales, qu'est-ce qu'elles apportent en fait, les sciences sociales aujourd'hui, des sciences sociales critiques en fait, pourquoi c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir des sciences sociales critiques ?
Les sciences sociales sont là.
Quel type de critique elles articulent, quoi ?
Elles critiquent des préjugés. Elles vont, par exemple, et surtout remettre en cause ce qui semble l'ordre naturel des choses. Et en ce sens, elles peuvent être une arme contre la domination. Alors, on peut penser à ces choses qui semblent naturelles, mais qui ne le sont pas. Par exemple, je prends l'exemple des études de genre qui dérangent. Et les études de genre dérangent parce que précisément, elles ont montré que l'identité homme et l'identité femme n'allaient pas de soi. Et elles ont fait éclater les visions essentialistes, donc des identités hommes et femmes. Et ces études de genre ont également permis de montrer quels sont les ressorts de la domination masculine et de montrer que la domination masculine est une question qui traverse l'ensemble des sciences sociales. Or, on peut constater que cette approche dérange, et cette approche dérange la droite conservatrice et réactionnaire, mais on a aussi pu constater qu'elle dérange, ou au moins qu'elle est incomprise par le Parti socialiste, et notamment par notre ministre de l'Éducation nationale, un certain Vincent Peillon, qui a dit récemment qu'il était contre l'enseignement, je cite, de la théorie du genre à l'école. Or, ce que Vincent Peillon ignore ou feint d'ignorer, mais ce que nos étudiants et étudiantes n'ignorent pas, c'est que la théorie du genre n'existe pas. La théorie du genre est une expression, une formulation qui a été inventée par les conservateurs, par les réactionnaires, pour stigmatiser et délégitimer une approche, et une approche qui s'inscrit pleinement dans les sciences sociales.
Ok, alors je vous propose maintenant qu'on écoute un son, justement, une intervention qui a été... qui a eu lieu à la soirée du 22 juin à la Java, sur justement la situation dans l'université. C'est donc une intervention d'une doctorante précaire, Artemisa Flores Espinola, qu'on a déjà reçue ici à FPP. Voilà.
Je suis doctorante précaire et je fais une thèse en féminisme. En fait, je fais une thèse sur la façon dont les mouvements féministes font changer la science. Donc, la précarité, c'est pas mal. Mon thème de recherche, mais je vais vous parler sur la mobilisation des précaires. Je vous demande aussi une certaine indulgence parce que je suis d'origine mexicaine avec mon français. Et je vais un peu vous raconter le mouvement des précaires qui a débuté il y a 6 mois, il y a 8 mois, par différentes manifestations dans différentes grandes villes françaises, surtout Montpellier, Bordeaux et après à Paris. Et afin de dénoncer l'explosion de la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche au cours de la dernière décennie, et en particulier pour demander l'application de la loi Sauvadet, qui devrait permettre la titularisation des contractuels. Donc, afin de faire entendre nos revendications, nous avons participé aux assises nationales de l'enseignement supérieur et la recherche en novembre dernier, et à une audition publique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en décembre. Donc nous avons été plusieurs fois conviés aussi au ministère avec le cabinet de la ministre, et malgré la concertation formelle que les pouvoirs publics avaient mise en place, en fait nous n'avons jamais été entendus. Et donc avant de commencer, j'aimerais bien de vous donner quelques chiffres sur la précarité, parce que c'est assez fort. Donc d'abord, la précarité, c'est 50 000 agents contractuels, sans compter les doctorants, ce qui représente environ 30% des effectifs en équivalent temps plein. Donc par exemple, au CNRS, il y a 30% des précaires, à l'INSERM 42%, et à l'INRA 22%. Donc ça, dans les universités, par exemple, ils représentent environ 25% des effectifs. Donc, un autre indicateur de la précarité, ce sont par exemple les 5,7 millions d'heures d'enseignement assurées par les vacataires ou par des heures supplémentaires des enseignants-chercheurs. Par exemple, en 2007, ce qui représente 30 000 postes de maître compte en termes de charges d'enseignement. Donc, après, vu la situation de l'explosion des précarités, avec les collectifs des précaires, on avait fait une mobilisation nationale, et à Paris aussi, ils se sont créés différents collectifs de précaires dans différentes universités, Paris 1, Paris 7, l'école des hautes études. Donc, nous avons proposé au gouvernement quelques mesures pour en finir avec la précarité. Donc, c'était la création de 5000 postes par an, en toutes catégories confondues. On avait demandé l'application réelle de la loi Sauvadet, l'augmentation des contrats doctoraux, en particulier dans les sciences sociales et humaines. Donc, pour le faire, nous avons aussi dit que c'est nécessaire une réorientation des fonds publics disponibles, c'est-à-dire une réorientation de budget, par exemple de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ou de crédit en co-recherche. Donc nous, on pense que c'est vraiment une volonté politique derrière pour changer c'est un changement de réorientation de budget. Donc aujourd'hui, le projet de loi Fioraso que le gouvernement socialiste a déposé à l'Assemblée nationale et qui vient d'être voté au Sénat avec les soutiens des écologistes, on en parlera, maintient les orientations désastreuses de la loi LRU de 2007, à savoir un grand nombre des universités françaises sont déficitaires en 2013, au risque de les devenir. Donc c'est une situation, les étudiants sont victimes de la disparition des formations, des diplômes et des milliers d'heures d'enseignement. Donc nous, nous constatons la poursuite d'une politique semblable au précédent. Donc, il n'y a pas une rupture avec les dernières politiques de la droite. Et il y a une absence de réelle résorption de la précarité. Il y a non renouvellement des CDD existants. Il y a un gel de postes de titulaires dans les universités. Il y a une suppression de postes dans les organismes de recherche. Il y a aussi des signatures de conventions IDEX impliquant des transferts de personnel, des organismes vers des fondations de coopération scientifique de droit privé. Donc il faut continuer, de notre point de vue, la lutte contre les politiques d'austérité du gouvernement. Donc nous soulignons les dangers d'une politique de recherche totalement orientée vers les transferts économiques et la valorisation au détriment de la recherche fondamentale et d'une recherche non marchande. Donc il faut défendre les valeurs de recherche libre, indépendante. C'est pour ça qu'on aussi, on est très content d'être là, invité pour cette démarche. Et on pense que c'est nécessaire un accès à la connaissance pour tous.
Et non, vous n'êtes pas à la Java, mais vous écoutez toujours Fréquence Paris Pluriel. Et ce soir, on parle du manifeste Champ Libre aux sciences sociales, manifeste La connaissance libère. Et alors, c'était un extrait de la soirée de lancement qui était intitulée Révolte. Et là, c'était Révolte à l'université avec Artemisa Flores Espinola, qui est donc qui fait partie du collectif des précaires du supérieur.
Et alors, justement, elle nous parlait de la situation à l'université, mais. Justement, il y a une loi qui est en ce moment examinée à l'Assemblée nationale sur la situation de l'université. Marielle, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur la situation, parce que concrètement, il se passe des choses en fait en ce moment.
Il se passe des choses et on en entend malheureusement pas assez parler. Et l'idée de la soirée, si je reviens un peu sur ce qui s'est passé samedi, était de réunir des universitaires, des chercheurs et des militants et des collectifs militants. Et on s'est inclus dans les groupes mobilisés, parce qu'il y a des mobilisations qui ont été assez importantes, même si elles n'ont pas été entendues cette année. Et il y a notamment eu des mobilisations importantes des précaires, c'est-à-dire de cette partie essentiel du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vit dans des conditions parfois difficiles et qui n'a pas accès à des contrats de travail décents. Et sur cette question, donc Artemisa avait été invitée à intervenir et on est dans un moment clé puisque cette semaine a été discutée au Sénat la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a été proposée par la ministre Geneviève Fioraso. Et on est nombreux et nombreuses dans l'ESR, comme on dit, dans l'enseignement supérieur et la recherche, à être extrêmement mécontents de cette loi. Alors pourquoi ? Première raison, et Artemisa le dit bien, cette loi ne va pas permettre la résorption de la précarité. Elle va laisser une situation où 50 000 précaires en France font tourner les universités et les laboratoires. Et plus globalement, cette loi ne permet pas de défendre un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière et revenir sur la loi dite LRU, dont on a déjà beaucoup parlé. Cette loi qui a été adoptée en 2007 sous Sarkozy, avec comme ministre Valérie Pécresse. Donc LRU signifie liberté et responsabilité des universités. Et c'est en fait une loi qui a un joli nom, mais une loi qui a consacré essentiellement l'autonomie financière des universités en leur transférant la gestion de la masse salariale des personnels titulaires. Donc quand on dit l'autonomie des universités, on ne parle pas tellement finalement d'autonomie scientifique, de liberté d'innover en sciences sociales par exemple, on parle surtout d'autonomie dans la précarité et dans le déficit, enfin déficit budgétaire. Donc c'est une loi qui a consacré l'autonomie financière des universités, mais qui ne leur a pas donné les moyens, et notamment les moyens financiers, d'assurer leur mission. Alors aujourd'hui, il y a des universités qui sont en déficit, et il y a d'autres établissements qui sont très proches du déficit. Donc la situation est extrêmement préoccupante, et elle est préoccupante au point qu'à l'automne, 14 présidents d'universités ont demandé à l'État de reprendre la gestion de la masse salariale. Donc le gouvernement socialiste qui a pris la suite donc du gouvernement UNP avait soulevé des espoirs pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais aussi pour les étudiants. Et on se rend compte finalement que la loi qui a été proposée entérine et poursuit les logiques de la LRU, loi qui avait été adoptée par le gouvernement précédent. Des assises ont été organisées à l'automne, alors des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais ces assises avaient été critiquées dès leur tenue, et notamment elles avaient été critiquées par les précaires qui étaient exclus, qui n'ont pas suffisamment été entendus lors de ces assises. Et ces assises, donc, étaient quand même un événement assez mondain, n'ont pas permis de remettre sur le tapis les questions les plus importantes. Donc une loi va être votée. Une loi qui ne porte aucune grande avancée pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et cette année, on a eu des mobilisations qu'on peut juger très insuffisantes. Mais j'ai envie de dire, les universitaires, qu'ils et elles soient titulaires ou précaires, n'ont pas dit leur dernier mot. Et je pense que dans les années à venir, il y aura aussi, en tout cas j'espère, des mouvements dans l'enseignement supérieur et la recherche.
Et sur la question du secondaire, est-ce que... C'est quoi un peu la situation
Alors,
aujourd'hui
si on revient à ce qui est la mission de Champs Libres, on peut voir qu'il y a aussi une menace sur la diffusion des sciences sociales dans le secondaire et dans le supérieur. Il y a eu une réforme des programmes de sciences économiques et sociales dans le secondaire, donc pour les lycéens. Et il y a eu une mobilisation, notamment une mobilisation de l'APSES, qui est l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Et il apparaît que l'on demande de plus en plus, en tout cas à travers les programmes, aux enseignants du secondaire, d'enseigner l'économie au détriment des sciences sociales et d'enseigner une économie qui n'est pas une économie hétérodoxe, mais qui est une économie, au contraire, très classique et une économie qui fait une large part à la microéconomie.
Et c'est les mathématiques, en fait. En fait, c'est l'utilisation, plutôt. C'est plutôt le côté mathématique de l'économie que le côté critique. Et...
Oui, en fait, on parle beaucoup plus de microéconomie que d'économie politique. Et quand on parle d'économie politique, on ne parle pas de tous ces travaux qui sont faits aujourd'hui par des économistes que l'on dit hétérodoxes et qui proposent des analyses alternatives aux alternatives dominantes sur des questions importantes comme par exemple la crise. Donc les lycéens, lycéennes qui passent le bac aujourd'hui ont une formation qui ne les prépare pas forcément à analyser, à critiquer et à être des citoyens et des citoyennes informés sur ces enjeux. De la même façon, à l'université, on peut s'interroger sur la valeur accordée aux enseignements fondamentaux en sciences sociales. Et on peut voir dans les évaluations des formations, puisque nos formations, nos maquettes, ça s'appelle, c'est-à-dire les programmes de cours, sont évalués par une instance qui s'appelle l'AERS. Et on se rend compte que ce qui est valorisé par cette agence d'évaluation, ce sont les enseignements professionnalisants au détriment de formations plus professionnalisantes. Cela ne signifie pas
ce qui est valorisé, c'est les formations professionnalisantes au détriment de formations plus générales et critiques.
Oui, au détriment de savoirs disciplinaires. Et on peut considérer qu'il est intéressant pour des étudiants d'avoir aussi des professionnels qui interviennent dans ces formations, mais tout ceci s'inscrit dans un contexte où on demande aux universités de former de jeunes professionnels et où on accuse les universités d'être responsables du chômage des jeunes. Or, si les jeunes sont malheureusement au chômage, ce n'est pas parce qu'ils sont mal formés par les universités, mais plutôt parce qu'on est dans une situation de crise avec un chômage de masse. Chômage de masse qui touche également les jeunes. Donc on est dans un moment où il faut défendre les sciences sociales et aussi défendre les sciences sociales concrètement dans les milieux de l'enseignement, dans le secondaire et dans le supérieur. Et si je peux ajouter un exemple pour être extrêmement concrète, cette année à Nanterre, j'ai par exemple encadré le stage d'une étudiante de master qui a fait un stage dans une ONG française. Et je lui ai fait lire les travaux critiques sur l'économie sociale et solidaire, par exemple les travaux de Maud Simonet ou de Mathieu Elie. Et la lecture de ces travaux lui a permis de comprendre pourquoi on attendait beaucoup d'elle alors qu'elle n'est pas payée. Ces travaux lui ont permis de comprendre comment fonctionne le secteur de l'économie sociale et solidaire, d'avoir un regard critique sur ce secteur, d'avoir un regard critique sur le bénévolat dans ce secteur. Cela lui a également permis de saisir toute la dimension paternaliste de son rapport avec son supérieur. Et donc, on a une étudiante qui est beaucoup plus armée dans la vie, beaucoup plus armée dans la vie professionnelle, mais je ne suis pas sûre que ces compétences, si on peut appeler ça des compétences, en tout cas ces savoirs critiques, sont les savoirs qui, à l'avenir, vont être le plus valorisés.
Qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, Oni truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon sob dans des coins trop bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle, te voilà. Pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en lis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des sociaux socialistes, des urbains urbanistes et les pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher. Avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras. Deux grenouilles bancroches. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur. We'll be right back.
Allez Zou, c'était les têtes raides avec les oreilles loin du front et on parle ce soir de révolte.
Révolte, c'était une soirée organisée le 22 juin à la Java à l'initiative des signataires du manifeste Champs Libres aux sciences sociales qui veulent en fait interpeller la société et les politiques sur le prêt-à-penser et appeler à des sciences sociales fortes à la fois au sein de l'université et dans la société. Alors on a été rejointe par Chloé, qui est une militante, une activiste féministe en fait de La Barbe. Et La Barbe est un groupe d'action féministe qui a été invité à participer à cette soirée révolte sur la question du sexisme et du féminisme et évidemment de la dénonciation de la domination masculine. Et donc La Barbe était invitée sur cette question de la domination masculine. Chloé, bonsoir.
Oui, bonsoir. Effectivement, La Barbe a été invitée, donc je faisais partie de l'une des intervenantes. Et pour penser les sciences sociales et le militantisme, et bon, pour partir de La Barbe, effectivement, on va dire que le militantisme à La Barbe et puis les sciences sociales se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire, à La Barbe. Un collectif ne naît pas de nulle part, naît d'analyse ou même naît en se positionnant par rapport à des discours et des discours de sciences sociales, parce qu'on pourra revenir. Enfin, les sciences sociales ont des discours politiques, même si on aimerait qu'elles soient plus politisées ou que ces différents manifestes qui sortent actuellement aimeraient qu'elles prennent plus de place. Mais en l'occurrence, à La Barbe, d'ailleurs, même si on pense à son origine, à sa création, c'est intéressant de voir que la plupart des fondatrices ont fait des sciences sociales. Et on peut peut-être faire l'hypothèse que le militantisme, l'activisme est une forme d'application des sciences sociales, ou en tout cas des sciences sociales qui passent à l'action. Et on peut estimer, ou en tout cas poser la question de savoir si c'est l'un des objectifs, l'une des perspectives d'ailleurs des sciences sociales, d'être une forme aussi de contre-pouvoir, parce que effectivement, un des buts, c'est de donner des clés d'analyse de la société et de voir que que les choses ne vont pas de soi, qu'elles sont construites donc socialement, culturellement, politiquement. Et en cela, avoir cette base-là permet d'être critique face à des discours de domination. Donc bon, là, La Barbe, c'est sur la domination masculine, mais on pourrait être sur d'autres champs, quoi.
Alors justement, pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret pour nos auditeurs et nos auditrices qui ont le malheur de ne pas connaître La Barbe, est-ce que tu peux rappeler comment se déroule une action Barbe ?
Oui, pardon, c'est vrai, j'aurais pu revenir à cette
base. Non,
c'est
très bien.
Mais La Barbe s'est montée en 2008 face à un trop-plein et un ras-le-bol des discours sexistes. Et puis certaines fondatrices de ce mouvement faisaient face à ce fameux plafond de verre. Donc,
Le fameux plancher collant.
Et c'est des militantes qui viennent d'ACT UP. Pour la plupart, est-ce qu'il y a une influence aussi sur le choix du répertoire d'action ? Donc La Barbe, parce que les activistes portent une barbe, et ce choix de porter une barbe est lié à la symbolique de la virilité et du fait que porter une barbe fait référence aux hommes politiques de la Troisième République, donc montrer le côté complètement anachronique de cette situation de domination masculine. Donc les activistes font des recherches.
Et les activistes sont des femmes. Il n'y a pas d'hommes barbus qui participent vraiment.
Non, les hommes barbus nous accompagnent par la pensée. Ou peuvent donner des sous. Mais après, on n'aime pas, n'empêche cette image, parce que voilà, les barbus femmes sont indépendantes aussi financièrement et donnent du fric. Donc on va pas retomber dans ce stéréotype. Mais effectivement, donc, par exemple, elles peuvent aller à l'Assemblée nationale dans des lieux culturels où généralement à l'Assemblée ou sur l'estrade, il n'y a que des hommes pour la plupart, la majorité sont des hommes. Et le but, c'est de perturber ces manifestations, ces colloques. Donc, généralement, on s'invite parce que on est au courant, on s'inscrit. Et à un moment, on interrompt leur joyeux cénacle. On se lève, on se met derrière eux, en portant cette barbe et en ayant une position très noble, très bien ancrée dans le sol. Et on se met derrière eux avec cette idée d'un effet miroir. Et là, les gens, on espère que les personnes dans la salle prennent conscience que c'est pas normal, qu'on voit que des hommes prendre la parole ou tenir un discours d'expert et de scientifique. D'ailleurs, on peut aussi, puisqu'on est sur les domaines des sciences sociales, poser la question aussi de
ces biais-là. Dans les universités, c'est le taux, en tout cas, le sexisme est très présent. Et finalement, plus on va en haut dans l'université, je crois que c'est 75% ou 80% des postes qui sont pris par les hommes en tant que professeurs des universités et maîtres de conférences. Et dans les sciences sociales, comme dans les sciences dures, il n'y a pas de différence, en fait.
Oui, et puis en plus, je crois même dans les sciences sociales, il y a beaucoup plus d'étudiantes étudiantes que d'étudiants, en tout cas, je crois, un peu plus. Je sais pas, Marielle, si tu...
Non, mais Alex nous fait signe que oui.
Non, mais je crois qu'effectivement...
Non, mais je crois. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a plus de thésardes, mais qu'après, il y a une espèce de disparition de la thésarde entre le moment
effectivement.
Où...
Il faut aussi voir qu'il y a un effet de génération et que dans les positions de pouvoir à l'université, on a une grande majorité d'hommes, mais que parmi les nouvelles recrues, on a quasiment la parité entre hommes et femmes.
Oui, je lui ai un souvenir aussi comme ça. Effectivement, peut-être que le pourcentage va s'affaiblir ou en tout cas l'écart se rattraper parce que j'ai un souvenir d'il y a un an ou deux à l'agrégation de sciences politiques. Je crois qu'il y avait plus de femmes reçues que d'hommes ou en tout cas une parité et que c'était la première fois. Voilà.
C'était effectivement la première fois où il y avait une grande majorité de femmes. Mais pour l'agrégation de cette année, il n'y a qu'une femme agrégée pour cet agrégé. Donc on revient, j'ai envie de dire, à la norme,
donc,
tout va bien.
C'était l'exception qui confirmait la règle. Tiens, une intervention de la barbe au jury de la grègue serait marrant aussi. Mais bon, pas pour le candidat ou la candidate.
Oui, je pense que là, ça sera un peu difficile. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la question de l'agrégation en sciences politiques, qui peut déjà, en tant que tel, être mise en cause. Il y a aussi des effets d'autocensure extrêmement importants. Et le problème n'est pas le jury de l'agrégation, mais le fait qu'il y a beaucoup moins de candidates que de candidats, parce que passer cette agrégation suppose de dégager beaucoup de temps en début de carrière, et qu'en raison de la domination masculine à la fois à l'université et hors d'université dans la société, les femmes ont beaucoup plus de difficultés à se présenter au concours que les hommes.
Sans compter l'auto-estime de soi qui fait que les hommes ont tendance à être, je dis une grosse généralité, mais ont plus confiance en eux et sont plus persuadés qu'ils vont réussir ce genre de concours, alors que les femmes ont tendance à être un peu plus, moins arrogantes en tout cas dans ce domaine-là.
Ouais, alors tu disais, Chloé, que donc il peut y avoir cette idée qu'en fait l'activisme est une forme de prolongement en fait de la réflexion critique à laquelle appellent les sciences sociales. Et du coup, inversement en fait, comme activiste, j'imagine que, comme activiste, on a aussi envie d'avoir des sciences sociales fortes en fait, telles que le projet est porté par les gens de Champs Libres.
Oui, j'ai plutôt envie de sciences sociales fortes, même en tant que citoyenne ou même en tant que personne qui s'intéresse à la politique. Après, tout dépend ce qu'on entend par fort dans les sciences sociales. Je pense que oui, je trouve qu'il est intéressant et même primordial que les sciences sociales continuent ces travaux construction et d'analyse critique des politiques, que ce soit les politiques publiques, des mécanismes de pouvoir, de domination. Tu parlais de l'économie sociale et solidaire, donc dans tous les champs. Et je pense que ça ne doit pas être que seulement, un discours d'expertise qui serait repris par les politiques. Je pense que les sciences sociales fortes, doit être vraiment pensé comme un discours de contre-pouvoir, comme le poil à gratter. Et ouais, je crois vraiment dans cette dimension de contre-pouvoir, de sciences sociales fortes. Donc après, ça dépend des sujets sur lesquels elle travaille, etc.
Oui, les sciences sociales sont une arme contre la domination, mais elles ne sont une arme que dans la mesure où il y a des collectifs militants ou des collectifs mobilisés d'une façon plus générale pour s'en servir. La connaissance en tant que telle est inutile si cette connaissance n'est pas diffusée, mais si cette connaissance n'est pas aussi réappropriable par des personnes qui, sur leur lieu de travail ou dans la société, vont aussi se mobiliser. Et je pense qu'il est important de rappeler cette évidence. Il y a des formes de savoir critique, mais ces formes de savoir critique doivent être utilisées comme des armes dans le cadre d'une lutte politique. Et ce ne sont pas ces savoirs critiques en tant que tels qui vont avoir des effets. Sinon, le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche serait un milieu extrêmement émancipé et on aurait gagné la mobilisation de cette année. Or, on a eu, j'en parlais un peu plus tôt, une loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche qui pose problème. Je pense que l'on est nombreux et nombreuses d'enseignement supérieur et la recherche à faire le constat des problèmes que pose la loi, mais ce n'est pas pour autant que la mobilisation a réussi, ce n'est pas pour autant que la mobilisation a été importante. Donc avoir des connaissances est indispensable, mais il faut aussi se mobiliser et savoir utiliser ces connaissances.
Alors comment est-ce qu'on peut renforcer, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, de comment renforcer justement ces liens entre, en gros, les activistes ou les militants et puis les chercheurs en sciences sociales. Est-ce que vous avez...
Je dirais qu'en fait, l'initiative même de Champs Libres ouais. est de favoriser ces liens et ces passerelles, ces contacts entre chercheurs, militants, activistes. Et à la soirée de samedi, on a volontairement organisé des duos entre des sociologues qui ont travaillé sur une question... et des personnes qui sont impliquées dans un milieu professionnel ou dans des collectifs militants. Je vous donne juste un exemple. On a eu un des moments de la soirée sur l'hôpital, sur la case du service public de la santé. Et on avait André Guirmiadi, qui est professeur de médecine et qui est très mobilisé sur ces questions-là, qui a dialogué avec Nicolas Bélorget, qui est un sociologue spécialiste de la case du service public de la santé et de l'hôpital.
Alors, du coup, justement... Pardon,
tu voulais... Non, je voulais juste ajouter que les projets de Champs Libres pour la rentrée sont d'organiser des rencontres hors des universités et hors des laboratoires de recherche avec des amateurs, amatrices de sciences sociales, en allant, par exemple, dans des librairies où des auteurs de sciences sociales vont dialoguer avec des personnes intéressées.
Après, je pense aussi, parce que je trouve, oui, comme Maria l'a souligné, que la question de l'appropriation et la réception, finalement, des sciences sociales est un enjeu, mais très, très fort. Surtout quand on a l'ambition d'en faire un outil, une arme. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette fameuse opposition entre le savant et le profane. Donc l'idée est là et que ces sciences sociales touchent le profane. Et même en disant son nom, je pense que les sciences sociales aussi, si elles veulent aller dans des sphères dans lesquelles elles vont difficilement difficilement atteignables pour elles, parce qu'elles parlent aussi avec un langage qui est propre à son champ, qu'il a construit, etc., mais qui n'est pas entendable ou audible par tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un travail de vulgarisation, mais en tout cas, quand je dis vulgarisation, c'est vraiment pas péjoratif, mais je pense que peut-être pour créer des passerelles, c'est de faire rencontrer des militants dans des lycées, enfin que les activistes viennent dans les lycées, enfin qu'ils soient invités par les profs de sciences économiques et sociales, ou que je pense qu'il faut imaginer. Il y a beaucoup de choses qui restent à imaginer pour toucher des publics qui ne sont pas touchés.
Alors, justement, sur cette question de la réappropriation, pas forcément des sciences sociales, mais ça concerne aussi les sciences sociales, mais du journalisme, de la transparence, de l'interpellation des journalistes, je vous propose qu'on écoute justement l'intervention de Jade Lingard, journaliste à Mediapart, qui était invitée à la soirée Révolte. Et qui repose justement cette question de comment les citoyens se réapproprient le travail des journalistes. Et je pense que ça fait complètement écho à ce qu'on disait aussi sur les sciences sociales, justement, de multiplier les passerelles.
Je voulais juste profiter de cette invitation pour démonter quelques idées reçues concernant les médias et faire partager de cette manière des réflexions qui sont en cours auprès de pas mal de journalistes. Vous dire que d'abord, non, les médias ne sont plus dominants. Oui, ils peuvent être des vecteurs de transformation sociale, mais ça dépend de vous. Et à mon avis, c'est peut-être dans cette direction-là que vous pourrez imaginer des discussions en commun avec vous, chercheurs et militants. Très rapidement, les médias ne sont plus dominants. Je pense que tout le monde ne prend pas la mesure de la catastrophe industrielle qui touche les groupes médiatiques aujourd'hui. Je vous donne juste quelques chiffres, pas pour vous assommer, mais pour vous expliquer de quoi on parle. En janvier 2013, les ventes de Libération étaient en baisse de 34% par rapport à janvier 2012. Les Échos 10%, sans jugement sur l'état des chiffres. Les Échos moins 13%, le Parisien moins 15%, le Monde moins 15%, le Figaro moins 9%. Les derniers chiffres, ok, ça c'est sur un an, hein. Les derniers chiffres d'avril 2013 par rapport à 2012, Libé moins 17, Le Parisien moins 7, Le Monde moins 2,5, L'Équipe moins 6,7, Les Échos moins 1, etc. Disparition de François et la Tribune en version papier, comme vous le savez. Je voulais aussi attirer votre attention sur un facteur qui est souvent sous-estimé, qui est en fait, la France n'a quasiment plus de quotidiens nationaux aujourd'hui. C'est-à-dire que Le Monde, Le Figaro, Libération, qui en 2011 représentaient à peu près 800 000 exemplaires vendus par jour, hein, en moyenne, tous les trois, en fait sont devenus des quotidiens régionaux. Ils sont vendus en Ile-de-France, en immense majorité. C'est-à-dire que Le Figaro réalise quasiment 60% de ses ventes en Ile-de-France, Le Monde 50%, Libé à peu près la même chose. Dans 79 départements, un journal comme Libé vend moins de 1500 exemplaires par jour. Et Le Monde et Figaro restent sous la barre des 1500 exemplaires vendus par jour dans 60 départements. Bon, j'arrête là les chiffres. Ce que je veux dire, c'est que médias dominants, ça n'est, pour la France en tout cas, hein, en très grande partie, ça n'est plus vrai. Et que cette révolution industrielle a des conséquences négatives et des conséquences positives. Conséquences négatives, l'effondrement économique des journaux rend ces journaux, par définition, encore plus dépendants de leurs actionnaires, actuels ou potentiels, et renforce les pressions sur les rédactions et les journalistes. Les exemples sont très divers et touchent à différentes thématiques. Je ne reviens pas dessus, mais il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Mais cette révolution industrielle accompagne aussi et accélère une révolution culturelle. Et c'est un peu ce message que je voulais vous faire passer ce soir. C'est-à-dire que on connaissait depuis l'apparition d'Internet la fin du monopole de l'accès à l'information. On vient de passer l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que les barrières historiques entre journalistes, lecteurs, sources sont en train de complètement se bouleverser aujourd'hui. Si on reprend un exemple récent très spectaculaire, c'est l'affaire NSA, donc l'affaire du scandale de la surveillance par l'autorité de sûreté américaine de quasiment tout le monde, nous tous ici. Bon, bah, cette information vient d'une personne qui travaillait pour l'un des sous-traitants de l'agence de sécurité américaine, qui envoie l'information à un blogueur, qui, le blogueur, l'a fait passer à un journal britannique. Vous voyez, c'est une révolution culturelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les circulations entre journalistes et citoyens sont potentiellement beaucoup plus importantes. Ça veut dire aussi que l'interdépendance est plus importante. Et ça veut dire qu'il y a des espaces qui s'ouvrent, en fait, dans les médias, en lien avec, beaucoup plus fortement qu'avant, la société, les sociétés civiles. Et donc la dichotomie, ça a sans doute énervé plein de gens ici, mais moi je pense vraiment à la dichotomie entre presse bourgeoise et presse militante est moins juste qu'elle n'était. Les barrières se floutent et les cartes en partie, pas entièrement, je vais vite, hein, mais en partie se redistribuent. Et ça c'est important à comprendre, y compris pour comprendre comment chacun intervenir dans les médias, accompagner ce truc-là. Donc très vite. Du coup, tout ça pour moi signifie que c'est pas sans un problème de journalisme, de complaisance en fait aujourd'hui auquel on est confronté, en tout cas nous journalistiquement, c'est celui des zones d'ombre du pouvoir qui sont très fortes, très importantes, très difficiles à, à, à mettre en pièce. Enfin, moi, je travaille à Mediapart, donc en l'occurrence, on est beaucoup sur ces questions-là. C'est vraiment hyper difficile et toujours très énervant d'entendre ce discours sur la tyrannie de la transparence. On est confronté plutôt à la tyrannie de l'opacité. Enfin, et avec des formes de censure qui sont aussi en plein renouvellement, c'est-à-dire beaucoup moins de censure politique, beaucoup plus de censure juridique, de la juridicisation, des pressions économiques et politiques envers les journalistes avec des individualisations, des écoutes personnalisées, les fameuses fadettes, des procès contre des journalistes en personne. Enfin, tout ce paysage est en train de se bouleverser. Et pour terminer, je voulais juste finir sur quelques réflexions concernant la notion d'information et de bien commun. Et que ce qui fait de l'information, là c'est un peu différent de la question du savoir et de la connaissance, mais ce qui fait de l'information un bien commun, ce n'est pas qui la produit ou qui la diffuse, mais ce qu'on en fait collectivement. C'est-à-dire, quelle indignation suscite l'affaire Calzade, le scandale de la NSA, les révélations de Stéphane Foucault sur le lobbying du privé sur les labos de recherche. Une fois l'info sortie, c'est là que le travail démocratique commence. Et ça, c'est une responsabilité collective. Il ne faut pas attendre des médias qui fabriquent tout seuls la transformation sociale que peut appeler l'information qu'ils révèlent. Et là-dessus, c'est en réaction notamment à un article que vous avez peut-être lu dans le Monde Diplo récemment de Razmig, Cheyenne et Pierre Rimmer, je ne sais pas s'ils sont là, mais qui ont écrit un texte très critique des articles de Mediapart sur l'affaire Calzade. Mais simplement, et notamment là-dessus, en disant, mais vous dénoncez un système, mais comme finalement vous n'apportez aucune barrière pour le transformer, quelque part, vous jouez le jeu de la continuation d'un système politique. Moi, je pense que, en fait, c'est une question de partage des tâches qu'il faut repenser, et que, encore une fois, il ne faut pas attendre des médias qui fabriquent cette transformation, mais par contre, elle peut être utilisée en ce sens.
Voilà, c'était Jade Lingart, journaliste à Mediapart, qui intervenait à la soirée Révolte. Et donc, comme vous avez pu l'entendre, la prise de son rend bien compte de cet environnement un tout petit peu animé qu'il y avait samedi soir à la Java.
Très animé, il y avait du monde.
Hein, oui, il y avait du monde. Et donc, on reconnaît bien un peu là la patte d'Edwy Plenel, en fait, hein, sur le journalisme comme bien commun. Qui a d'ailleurs été un tout petit peu contesté par en fait l'intervenante suivante, Laura, qui est une étudiante de Sciences Po et qui intervenait sur le traitement médiatique de l'affaire Clément Méric. Et je vous propose qu'on écoute ça tout de suite.
Je suis militante au syndicat solidaire étudiant Sciences Po, où était donc Clément Méric. Je suis désolée, du coup j'arrive avec une intervention qui ne contient pas de proposition ni d'opposition officielle, c'est un témoignage qui est le mien mais aussi celui des autres membres du syndicat, notamment par rapport à la réaction médiatique auquel j'étais confrontée assez directement puisque j'étais une des deux chargées de la presse suite à la mort de Clément. Du coup, je voudrais juste, avant de lire le texte qu'on a écrit, faire une petite nuance par rapport à ce qui était dit sur la presse dominante et la presse militante. C'est vrai que les chiffres sont effectivement parlants, cela dit, pour témoigner, je peux vous dire que les réactions, enfin les questions qui nous étaient posées et la façon dont elles étaient posées entre les médias dominants et la presse dominante, le respect pour la douleur qu'on pouvait ressentir nous, c'était vraiment le jour et la nuit. Pour le coup, je trouve ça important de le signaler parce que, entre les questions intrusives des uns, l'irrespect total pour l'absence d'empathie et les autres chez lesquels on sentait aussi une démarche militante, pour nous, clairement, c'était pas du tout le même vécu. Et un dernier petit point qui, je pense, sera important pour les camarades qui sont pas là. Le texte à l'écrit avait été féminisé, mais je vais pas lire pour pas leur faire la lecture. Mercredi 5 juin, la nuit vient de tomber. On nous annonce que Clément ne se réveillera pas. Clément Méric vient de mourir, assassiné par des militants d'extrême droite. Nos nuits seront longues, nos nuits sont interminables. Le lendemain, alors que le soleil se lève et que nous ne relevons pas de sa mort, vous nous appelez. Vous voulez nous entendre, vous voulez nous questionner. La mort rôde sur nos têtes, vos micros entament leur valse. Tels des vautours, vous voulez des témoignages, des explications aussi. Le tribunal médiatique se met en ordre. Le jugement peut commencer. Nous venons de perdre un ami. Vous venez de trouver votre gagne-pain de la journée, du week-end même sans doute. Nos téléphones ne cessent de sonner. À chaque fois, ces mêmes questions. Qui était-il? Quels sont ses combats? Quel type de militant était-il? Était-il grande gueule? A-t-il agressé? A-t-il provoqué ces mêmes intrusions dans nos vies? Il est midi. Nous sommes devant notre lieu d'études. Des camarades, habitués au battage médiatique et à la récupération, se font visibles. Ils vous donnent en pâture ce que vous ne pouvez obtenir de nous. Il vous faut des témoignages. Toujours ce goût pour l'intime. Clément n'est plus. Il a été remplacé par des dizaines de caméras épiant nos faits et gestes. Vos gros plans et objectifs exposent notre peine. Vous ouvrez vos micros aux récupérateurs et récupératrices de tous bords. Chacun y va de sa réaction. Tant pis si, comme Copé aux Zemmour, ces paroles salissent la mémoire de Clément. Pour vous, c'est la bataille des extrêmes qui commence. Pour nous, un énième crime d'extrême droite qui nous atteint au cœur. Vous renvoyez dos à dos nos combats pour la liberté, le refus de la haine et du rejet de l'autre, et ces idées nauséabondes de l'extrême droite, fondées sur l'exclusion, l'autoritarisme et la haine. Nos portables continuent de sonner, toujours ces mêmes messages. Certains d'entre vous, lassés de ne pouvoir obtenir de nous cette quête voyeuriste de l'intime, se font plus harcelants encore. Des politiciens tels que Jean-Luc Mélenchon défilent sur vos plateaux. Pendant ce temps, la police de Manuel Valls rafle à Barbès les sans-papiers dans la plus grande discrétion médiatique. Une bonne journée pour leurs statistiques. C'est maintenant un autre type de personnage qui défile sur vos plateaux. L'homme qui a enfanté ces monstres violents a apparemment droit à la parole. Serge Alioub, alias Batskin, vient défendre les meurtriers. Vous lui accordez un temps d'antenne précieux. La haine a, semble-t-il, sa place à la télévision. Bizarrement, les Le Pen et autres fascisants du Front National se targuent sur vos antennes de ne pas les connaître. Eux aussi ont le droit à la parole, de se défendre pour prouver la respectabilité de leur formation. Vous, journalistes, n'évoquez pas toutes ces fois le Front National paradé avec ses formations d'extrême droite, que vous appelez radicales. Nous, écœurés, nous rappelons qu'ils faisaient la sécurité lorsque nous tentions de barrer la route à l'extrême droite dans la rue. Nous nous rappelons aussi que pendant que nos camarades se battent en Syrie contre un État qui les opprime, les fascistes de l'extrême droite, Serge Ayoub et Troisième Voix en tête, défilent pour soutenir ce régime assassin. Non, Clément n'est pas leur première victime et d'autres amis meurent de leur folie. Votre battage médiatique se fait maintenant encore plus pesant. Chacun de vos mots est un énième coup sur le visage de Clément, déjà mort. Il n'est que jeudi soir et vous venez à jamais de salir l'honneur de Clément. Vous insinuez qu'il ne s'agit que d'une énième bagarre entre des extrêmes. Serge Ayoub peut, le lendemain matin, se défendre 12 longues minutes sur le plateau d'ITV. 12 minutes de trop, 12 minutes qui sont autant de coups portés au visage de Clément, déjà mort. Nous n'avons pas vraiment dormi cette nuit. Vos articles nous hantent, tout autant que peuvent nous hanter le spectre de cette extrême droite, déjà bien présente depuis quelques années en Europe. Nos journées doivent continuer, il nous faut organiser la riposte. Quelques jours avant Clément, ce sont des personnes issues de l'immigration qui ont fait les frais de cette extrême droite. Nous nous rappelons toutes ces années où vous l'avez invité, comme si cela était normal, par objectivité, dites-vous. Les criminels peuvent circuler librement, pendant que le racisme d'État expulse des sans-papiers. Cela fait 5 jours que Clément était sauvagement tué dans les rues de Paris. Nos nuits sont noires de notre peine, nos larmes sont rouges de son sang. Et pourtant, nous devons lutter, mais aussi vous interpeller. Clément se battait pour un monde plus juste. Clément luttait contre toutes les formes d'oppression et de domination. Capitalisme, fascisme, racisme, hétérosexisme et spécisme notamment. La réaction l'a tué. L'extrême droite peut assassiner impunément, quand bien même ses militants sont condamnés, les idées gardent le droit de citer. En leur donnant la parole, en insinuant le doute et en renvoyant les combats de Clément et ceux de l'extrême droite dos à dos, vous portez pour nous une lourde responsabilité. Nous n'avons pas attendu la mort de Clément pour constater que votre travail faisait bien trop souvent le jeu des dominants et de l'extrême droite. Le traitement médiatique du meurtre de Clément et vos intrusions déplacées dans nos vies viennent renforcer nos convictions. Nous vous demandons donc maintenant, comme le chantait Florence Kiss puis Pete Seeger durant la grève des mineurs de charbon aux États-Unis dans les années 30, de quel côté êtes-vous? Des amis et camarades de Clément Méric.
Voilà, on écoutait Laura qui intervenait justement sur le traitement médiatique de l'affaire Clément Méric et la façon dont les militants de Sud à Sciences Po ont été sollicités. Et un élément important que j'ai pas pu conserver au montage, mais qui était en fait la façon dont elle a rappelé aussi la différence de traitement médiatique qu'il y a eu entre le meurtre de Clément Méric et l'agression contre la jeune femme à Argenteuil, qui a perdu son bébé, en fait, qui était enceinte. Et donc, la différence de traitement entre...
les jeunes femmes voilées, pour
qui étaient voilées.
Ceux et celles qui n'ont pas entendu dans les médias.
Et donc, la différence de traitement entre un militant politique antifasciste et puis une femme voilée. Et donc, le peu d'attention, en fait, qu'a eu ce crime, cette agression islamophobe. Voilà, donc ça c'était Laura donc à la Java le 22 juin pour la soirée révolte de Champs Libres, soirée organisée pour lancer en fait le manifeste La Connaissance Libère, Champs Libres aux sciences sociales, qui est une interpellation en fait pour avoir des sciences sociales plus fortes à la fois dans l'université et au sein de la société.